L'égalité métropolitaine, l'égalité coloniale. Revenons-en maintenant à la question des origines et de la persistance des inégalités au sein des sociétés coloniales. Nous avons évoqué le rôle des budgets coloniaux dans la production et la persistance des inégalités coloniales. À partir du moment où les très lourds impôts acquittés par les populations colonisées étaient utilisés principalement au bénéfice des colons, en particulier en matière d'investissement éducatif, il n'est pas surprenant que les inégalités initiales se perpétuent. Au-delà des inégalités induites par le système fiscal et la structure des dépenses publiques, il faut toutefois ajouter qu'il existait bien d'autres éléments inégalitaires dans le régime colonial, à commencer par le système légal, qui était de fait beaucoup plus favorable aux colons. En particulier, en matière commerciale comme sur les questions civiles, le droit de la propriété ou le droit du travail, les populations européennes et autochtones n'avaient pas accès aux mêmes tribunaux et ne jouaient pas à armes égales dans la compétition économique. Cette brutalité spécifique de l'inégalité coloniale s'exprime par exemple dans la ruine de l'indigène Sanikem, héroïne du « Monde des hommes », magnifique roman publié en 1980 par Pramoedya Anantatur. Vers 1875, près de Surabaya, dans l'est de Java, le père de Sanikem espère obtenir une promotion et se faire un petit pécule en la vendant à l'âge de 14 ans comme Niai, concubine, au propriétaire hollandais de la plantation, Herman Mellema. La jeune fille comprend qu'elle ne pourra plus compter que sur elle-même. Ses bras à la peau rugueuse d'iguane étaient couverts de poils blonds gros comme mes cuisses. Mais Herman a lui aussi ses fragilités. Il a fui les Pays-Bas, son milieu et sa femme, qu'il accusait d'adultère, et avant de sombrer dans l'alcoolisme, il tente de se reconstruire en enseignant le néerlandais à Sanikem, qui peut ainsi lui lire les caisses de magazines venues de Hollande et qui apprend vite à développer seul le domaine de Wonokromo, au prix de tous les sacrifices et de toutes les railleries. Sanikem voit avec bonheur sa fille Annelies se rapprocher d'un indigène, Minke, miraculeusement admis au lycée néerlandais de Surabaya, alors que son fils Robert, humilié par son statut de métis, déchaîne sa violence contre les autochtones avec plus de hargne que les purs blancs. Ce que Sanikem ignore, c'est que le fruit de son travail n'a aucune valeur légale. Arrivant furieux de Hollande, ivre de colère face à un père indigne qui a mêlé son sang à celui des indigènes et que l'on retrouvera peu après mort au bordel chinois des environs, le fils légitime de Herman vient réclamer ses droits et finit par prendre le contrôle de la plantation grâce au jugement du tribunal hollandais de Surabaya. Annelies est emmenée de force aux Pays-Bas et sombre dans la démence alors que Sanikem et Minke restent à Java, anéantis. Nous sommes au début des années 1900 et ils n'ont plus qu'une chose à faire, se consacrer à la lutte pour la justice et pour l'indépendance, qui sera longue. Pramoedya Anantatur en sait quelque chose. Il a subi les geôles hollandaises en 1947-1949, avant de connaître dans les années 1960 et 1970 celles de Sukarno, puis de Suharto, suite à ses engagements communistes et à sa défense des minorités chinoises en Indonésie. Son texte dissèque aussi les inégalités monétaires, à une époque propriétariste où l'étalon or et l'inflation nulle donnaient un sens social à l'argent et une solidité sans pareille à la propriété. Sanikem a été vendu par son père pour 25 florins, de quoi faire vivre 30 mois confortablement une famille de villageois. Mais nous ne sommes pas dans le roman classique européen, et l'essentiel est ailleurs. Le régime inégalitaire colonial se fonde avant tout sur des inégalités statutaires, identitaires et ethno-raciales. Les purs blancs, les métis et les indigènes n'ont pas les mêmes droits, et ils se retrouvent tous embarqués dans des enchevêtrements de mépris et de rancœur aux conséquences incontrôlées. Des recherches récentes, en particulier celle d'Emmanuel Saada, ont montré comment les puissances coloniales ont développé jusqu'au milieu du XXe siècle des systèmes juridiques spécifiques dans leurs empires, leur permettant d'accorder des droits en fonction de catégories ethno-raciales qu'elles se mirent à codifier avec précision, alors même que ces catégories étaient supposées avoir été éliminées du droit métropolitain depuis l'abolition de l'esclavage. Les informations sur la race avaient par exemple disparu des recensements menés à La Réunion ou dans les Antilles françaises depuis 1848. Le décret de 1928, déterminant le statut des métis nés de parents légalement inconnus en Indochine, accordait ainsi la qualité de Français à tout individu dont au moins l'un des parents était présumé de race française, ce qui allait conduire les tribunaux à se pencher sur les caractéristiques physiques et raciales des plaignants. Plusieurs écoles s'affrontaient alors. Certains administrateurs coloniaux doutaient des capacités d'adaptation sociale de ces métis issus d'unions passagères avec des femmes jaunes et récusaient cette politique de naturalisation automatique. Mais de nombreux colons, qui souvent avaient eux-mêmes conclu une union mixte assumée, insistaient au contraire sur les dangers de laisser vagabonder des hommes qui ont notre sang dans les veines et à quel point il serait impolitique de laisser se créer un parti anti-français, de susciter le mépris des anamites qui nous reprochent l'abandon où nous laissons ceux qui pour eux sont nos fils. L'adoption de critères raciaux fut également motivée par le souci des autorités coloniales de lutter contre les reconnaissances frauduleuses, dont tout indique qu'elles étaient fort rares, de même que les métis en général, mais dont on craignait qu'elles conduisent à une véritable industrie à l'usage d'Européens ingénieux tombés dans la misère et désireux d'assurer la sécurité de leurs vieux jours, selon les termes d'un juriste de l'époque. À Madagascar, on s'inquiétait par ailleurs des difficultés d'application d'une telle législation qui avait été pensée pour l'Indochine. Comment fera le juge pour distinguer l'enfant d'un père réunionnais, citoyen français à défaut d'être de race française, de celui d'un père malgache, sujet indigène? Cela n'empêcha pas le décret d'être appliqué en Indochine. Des certificats médicaux permettront dans les années 1930 d'établir le métissage franco-indochinois des enfants et conduisirent après la Seconde Guerre mondiale au rapatriement forcé de milliers de mineurs métis. Il faut également noter que si les mariages mixtes étaient en principe autorisés dans les colonies comme en métropole, les autorités publiques tentaient en pratique de les dissuader, surtout quand il s'agissait d'une union entre une femme française et un homme indigène. En 1917, alors que des travailleurs coloniaux particulièrement nombreux à venir d'Indochine nouent des relations avec des femmes françaises, souvent des ouvrières affectées aux mêmes usines métropolitaines qu'eux, une circulaire du ministère de la Justice demande par exemple aux maires de tout tenter pour les faire échouer. Les maires se charge de prévenir nos compatriotes trop imprudentes ou trop crédules contre les dangers qu'elles ne soupçonnent pas et qui ont trait à la polygamie attribuée aux indigènes, mais aussi au niveau de vie, puisque les salaires des indigènes sont insuffisants pour permettre à une femme européenne de vivre décemment. Au-delà de la question des métis, c'est véritablement tout un système légal parallèle qui se met en place dans les colonies, souvent en contradiction frontale avec les principes sur lesquels la légalité métropolitaine prétend se fonder. En 1910, la Chambre de commerce de Haiphong explique au ministère des colonies pourquoi les jeunes Français accusés de viol par des autochtones doivent être traités avec la plus grande bienveillance. En France, le paysan, l'ouvrier qui ont mis à mal leur voisine répare, et l'homme qui, par sa position, a pu abuser une femme plus jeune ou plus pauvre a contracté une dette irrécusable. Mais, sans parler de couleur ni de race inférieure, les rapports sociaux ne sont pas les mêmes entre le jeune Français qui débarque et les indigènes qui lui sont offertes le plus souvent. Dans le cas de l'Indonésie néerlandaise, Denis Lombard a bien montré le rôle néfaste joué par le statut colonial de 1854 qui décida de séparer strictement les indigènes et les étrangers orientaux, catégorie dans laquelle étaient rangées les diverses minorités chinoises, indiennes, arabes. Cette séparation contribua à figer durablement des identités et des antagonismes, alors même que le carrefour javanais et l'insule Inde se caractérisaient depuis plus d'un millénaire par un métissage unique des cultures hindouistes et confucianistes, bouddhistes et musulmanes, peu conforme à l'image que se faisaient les Européens de la mondialisation, mais qui finalement a peut-être eu un impact plus durable sur les cultures régionales et la Méditerranée orientale, de Jakarta à Canton et de Phnom Penh à Manille, que l'ordre martial des Occidentaux. Le travail forcé légal dans les colonies françaises, 1912-1946. Un cas particulièrement révélateur est celui du travail forcé pratiqué sous une forme légale, ou tout du moins sous une forme qui cherchait à se donner certaines apparences de légalité, dans les colonies françaises de 1912 à 1946. Ce cas illustre la continuité des sociétés esclavagistes aux sociétés coloniales, et l'importance d'un examen détaillé des systèmes légaux et fiscaux appliqués dans les différents régimes inégalitaires. Dans le cas de l'Afrique, tout indique que le travail forcé n'a jamais véritablement cessé entre la fin de la traite atlantique et le second âge colonial, et s'est en réalité poursuivi tout au long du XIXe siècle. À la fin du siècle, quand les Européens commencent à s'enfoncer plus loin à l'intérieur des terres pour exploiter les richesses naturelles et minières, ils ont largement recours au travail obligatoire, dans des conditions souvent très brutales. Des controverses commencent à se développer en Europe en 1890-1891, puis de nouveau en 1903-1904, à mesure que se multiplient les témoignages sur les atrocités commises au Congo belge, qui est depuis 1885 la propriété personnelle du roi Léopold II, et où l'exploitation du caoutchouc repose sur des méthodes particulièrement violentes visant à mobiliser la main-d'œuvre locale et à discipliner le travail. Incendie de village, mutilation de mains pour économiser les cartouches. Finalement, les Européens exigent le transfert du territoire à la Belgique en 1908, dans l'espoir que la tutelle d'un parlement adoucira ce régime. Des exactions commises dans les colonies françaises sont régulièrement dénoncées, et c'est dans ce contexte que le ministère des colonies est amené à publier plusieurs textes permettant de définir un cadre légal pour les prestations, plus communément appelées corvées, exigées des habitants de l'Afrique française. La logique se veut imparable. L'administration coloniale repose sur le paiement de l'impôt par tous. Or, certains indigènes n'ont pas suffisamment de ressources monétaires pour acquitter ces impôts. Par conséquent, il leur sera également demandé un supplément d'impôt en nature, sous forme de journées de travail non rémunérées. En pratique, le problème n'est pas seulement que ces corvées viennent s'ajouter à de très lourds impôts en argent et en nature, sous forme de prélèvements sur les récoltes, déjà acquittées par les populations colonisées, mais aussi que cette possibilité de travail non rémunéré ouvre la voie à tous les abus et équivaut à les légaliser à l'avance. L'arrêté de 1912, portant réglementation de la prestation des indigènes dans les colonies et territoires du gouvernement de l'Afrique occidentale française, fixe quelques garde-fous, mais ils sont relativement limités et mal contrôlés. Il est ainsi précisé que les indigènes pourront être soumis à des prestations pour l'entretien des voies de communication, routes, ponts, puits, etc. Ainsi que pour d'autres infrastructures comme la pose des lignes télégraphiques et les travaux publics de toute nature. Le tout sous le contrôle exclusif du lieutenant-gouverneur ou du commissaire de chaque colonie. Le texte indique que sont concernés tous les individus de sexe masculin, valides et adultes, à l'exception des vieillards, sans précision d'âge. Les prestations sont en principe limitées à 12 journées de travail non rémunérées par personne et par an. Seules ces prestations légales ont été enregistrées dans les archives coloniales, et ces traces officielles sont suffisantes pour réviser substantiellement à la hausse les estimations de la pression fiscale coloniale, et pour en conclure que le travail forcé était un rouage essentiel du système colonial dans son ensemble. De multiples témoignages de l'entre-deux-guerres indiquent que le nombre de journées de travail réellement exigées dans l'entre-deux-guerres était en réalité beaucoup plus élevé. Lorsque les besoins l'exigeaient, la norme était le plus souvent comprise entre 30 et 60 jours dans les colonies françaises comme dans les colonies belges, britanniques, espagnoles et portugaises. Dans le cas français, le travail forcé fit particulièrement scandale lors de la construction tragique du chemin de fer Congo-Océan entre 1921 et 1934. L'administration de l'AEF s'était initialement engagée à fournir quelque 8000 travailleurs locaux qu'elle pensait pouvoir recruter sur une bande de territoire de 100 km le long de la voie. Mais la mortalité exceptionnellement élevée du chantier et sa dangerosité avérée firent fuir les recrues et les autorités coloniales partirent rechercher des adultes mâles à l'autre bout du Moyen Congo. À partir de 1925, elles durent organiser des razzias jusqu'au Cameroun et au Tchad. Les témoignages affluèrent sur cette effroyable consommation de vies humaines, en particulier avec la publication du célèbre « Voyage au Congo » d'André Gide en 1927 et du livre de reportage « Terre d'ébène » publié par Albert Londres en 1929. La pression internationale s'accrut alors sur la France, en particulier de la part de la toute nouvelle Organisation internationale du travail, l'OIT, qui avait été créée en 1919 en même temps que la Société des Nations, et dont la constitution débutait par le préambule suivant « Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions. Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. S'ensuivait une série de recommandations et de rapports sur la durée du travail et sa dangerosité, la fixation des salaires, les droits des salariés et de leurs représentants. L'OIT manquait toutefois singulièrement de moyens et de pouvoirs de sanction pour faire appliquer ces recommandations. Au cours des années 1920, l'OIT sommait régulièrement la France de cesser ses pratiques de travail non rémunéré et de déplacement forcé de la main-d'œuvre, qui s'apparentait, selon l'Organisation internationale, à une forme de travail servile. Mais les autorités françaises récusèrent ces accusations en insistant sur le fait qu'elles venaient justement d'étendre les possibilités de rachat monétaire des prestations à l'ensemble des indigènes, et pas seulement aux évolués, terminologie utilisée par l'administration coloniale pour désigner la petite minorité d'indigènes ayant adopté un mode de vie européen et qui, jusqu'alors, avait seul droit à ce rachat. L'un des arguments favoris de l'administration française était également que de nombreux cas incriminés, en particulier sur le chemin de fer Congo-Océan, relevaient non pas du régime des prestations, mais de la conscription militaire, qui était l'un des rares cas de travail non rémunéré autorisé par l'OIT, à condition toutefois que ce système militaire ne soit pas contourné pour effectuer des tâches civiles, et en l'occurrence l'OIT soupçonnait la France de contourner le système. Outrée par une telle intrusion dans ce qu'elle considérait comme leur souveraineté nationale, les autorités françaises refusèrent pour cette raison de ratifier la convention de l'OIT en 1930. C'est ainsi que le travail forcé non rémunéré, sous la forme de prestations et de conscriptions, se poursuivit dans les colonies françaises jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par exemple dans les exploitations de cacao de Côte d'Ivoire. Le décret de 1912 ne fut finalement aboli qu'en 1946, dans un contexte politique fort différent où la France était soudainement prête à toutes les concessions pour éviter le démantèlement de son empire.